Ici Francis Richard, nous sommes le 16 avril 2010 et je vous parle de Suisse romande. L'hebdo du 8 avril 2010 tente vainement de salir la mémoire du général Guisan. Lundi matin, 12 avril 2010, à 7h30, 26 coups de canon ont été tirés au bord du lac Léman, à Puy, devant Rive Verte, la dernière résidence du général Guisan, pour commémorer le cinquantenaire de ses funérailles. Pourquoi 26 coups de canon? Pour symboliser les 26 cantons helvétiques qui ont tous soutenu l'action du général pendant la Seconde Guerre mondiale, qui n'ont pas fait défaut à ce militaire hors du commun, à ce fervent défenseur du fédéralisme qui a incarné alors l'esprit de résistance. Le 12 avril 1960, à Lausanne, 300 000 personnes assistent aux obsèques du général, du jamais vu et du jamais revu depuis. Pour qu'une telle unanimité se soit faite, il ne peut s'agir d'un hasard. Il faut bien que l'homme soit exceptionnel. L'hebdo que l'on retrouve dans tous les mauvais coups portés récemment au pays a baptisé un dossier de son numéro du 8 avril « Henri Guisan, quand le mythe se lézarde ». Philippe Barrault, dans un article intitulé « Guisan et les révisionnistes dévoyés », règle fort bien leur compte à ces travailleurs de mémoire dont le but n'est pas d'écrire l'histoire, mais de servir une idéologie systématiquement anti-bourgeoise et anti-militariste. Comme d'habitude, l'historien d'extrême-gauche de service, l'incontournable Hans Ulrich Jost, était la référence de l'hebdomadaire du même métal. Sur la première, station d'information de la radio suisse romande, le même a bavé encore sur le général à peu près au moment où le canonnage était fait depuis Rive Verte. Dans la préface au livre « Le général Guisan et l'esprit de résistance », Jean-Jacques Rapin rappelle qu'un peuple ne doit pas oublier son passé et ses figures tutélaires, je cite, « avec leurs ombres et leurs lumières, au risque que ne s'insinue le, je cite, « virus actuel de l'auto-dénigrement, de l'auto-flagellation et du mépris de soi-même ». Il ne croyait pas, peut-être, si bien écrire. Le lecteur du livre de Jean-Jacques Langendorf et de Pierre Streit, publié aux éditions Cabedita, ne sera pas déçu. Les auteurs ne tombent ni dans la géographie ni dans la polémique. Avec humilité, ils savent dire qu'à l'heure actuelle, il y a encore des trous dans la connaissance du sujet. Les auteurs ne sortent pas de leur sujet quand ils dressent le portrait des prédécesseurs d'Henri Guisan à la fonction suprême de général qui n'existe en Suisse qu'en temps de guerre ou de menace de guerre. Cela leur permet de souligner les différences et les ressemblances qui existent entre les destins des généraux Dufour, Herzog, Wille et Guisan. Ils ne sortent pas davantage du sujet quand ils dressent le portrait de ceux qui ont dit non et qui ont incarné l'esprit de résistance en d'autres lieux, au même moment que le général. Le maréchal Mannerheim fera payer très cher aux soviétiques la conquête de terres finlandaises. Winston Churchill opposera aux nazis une détermination de fer. Le général de Gaulle n'acceptera pas la défaite de la France en 1940. Le général MacArthur, aux Philippines, résistera âprement à l'agresseur nippon, invaincu facilement partout ailleurs. Au début de la Seconde Guerre mondiale, Henri Guisan mise sur la victoire de la France contre l'Allemagne, ce qui ne l'a pas empêché de mobiliser et de faire passer les hommes sous les armes de 150 000 à 450 000, de veiller à interdire le passage des belligérants, quels qu'ils soient, sur le sol national, neutralité oblige. À l'annonce de l'armistice franco-allemand, le général connaît quelques jours de flottement avant de se reprendre, avant de publier un peu plus tard un ordre d'armée, le 2 juillet 1940, et de prononcer un discours devant 400 officiers supérieurs le 25 juillet 1940 sur la prairie mythique du Rütli. Dans les deux cas, il appelle à la résistance de la Suisse au pays qui l'encercle dorénavant. En préambule à l'exposé de la stratégie du réduit national, élaboré par Henri Guizan, les auteurs font un rappel historique du refuge ultime, dont la forteresse de Massada des Sicaires, résistant aux Romains, est un exemple insigne. Le mot même de réduit sera employé pour la première fois en Belgique pour désigner le dédale de fortifications voulu par Léopold Ier pour protéger Anvers à la fin du XIXe siècle. Au XXe siècle, la montagne permettra des troupes inférieures en nombre de résister à des troupes ennemies. Les auteurs donnent les deux exemples de la ligne Maginot entre guillemets des Alpes, qui permettra aux Français de résister avec succès aux Italiens de Mussolini, et l'exemple de Monte Cassino, qui permettra aux Allemands de résister de longues semaines aux assauts des Alliés. Le réduit national va s'imposer comme stratégie, au caractère à la fois militaire et symbolique, parce que la Suisse n'a aucune chance de pouvoir résister aux Allemands en rase campagne. Il ne s'agit pas non plus de replier toute l'armée dans les Alpes suisses, même si c'est la plus grande partie qui s'y retrouvera. Des troupes résisteront à la frontière, d'autres le feront sur une deuxième ligne, leur combat ne pouvant être que retardataire. Les troupes du réduit, de là, harcèleront l'adversaire, lui tomberont dessus et lui infligeront des pertes sévères. Les auteurs terminent leur ouvrage en montrant que les menaces qui pesaient sur la Suisse étaient réelles et qu'elles ne provenaient pas des mêmes adversaires tout au long du conflit mondial. En évoquant les rapports parfois tendus entre Henri Guizan et l'armée, entre Henri Guizan et le monde politique, qui contraste avec le charisme non démenti que le général exerce sur les civils, particulièrement les plus humbles, lesquels le considèrent très vite comme le père de la patrie et lui vouent une confiance absolue, sans doute parce qu'il est proche d'eux, sait leur parler et ne leur raconte pas d'histoire. Guizan avait des défauts, Guizan a fait des erreurs, écrit Philippe Barrault dans l'article cité plus haut. Oui, quel homme n'en fait pas? Reste qu'il a réussi un tour de force inouï, insuffler l'esprit de résistance aux Suisses. C'est irremplaçable. Et pour cela, nous lui devons une reconnaissance sans réserve. Jean-Jacques Langendorf et Pierre Streit ne nous cachent ni ses défauts ni ses erreurs. Leur livre, qui comporte une riche bibliographie, n'en est que plus crédible. Il paraît au bon moment et devrait fermer le clapet aux historiens engagés et aux plumitifs agressifs, comme les appelle Philippe Barrault. Avant de quitter l'antenne, je rappelle à nos auditeurs que leurs réactions, leurs informations ou leurs commentaires sont les bienvenus et qu'ils peuvent nous les adresser par email en précisant seulement à quelle émission ils font référence. L'adresse email de la rédaction est radio-silence@wanadoo.fr. Je leur rappelle également qu'ils peuvent acquérir la carte annuelle d'amis de Radio Silence pour la modique somme de 20 euros. C'était Francis Richard qui vous parlait de Lausanne pour Radio Silence.